Le journal présenté par William Delesseux.
Bonjour, Beyrouth se réveille après une nuit de violence. Le calme semble être revenu ce matin, bilan de cette manifestation qui avait démarré place des Martyrs. La mort d'un policier et plus de 200 blessés d'après la Croix-Rouge. Laure Stéphan, correspondante de France Culture, vous êtes en direct de Beyrouth. Bonjour, cette violence des manifestations hier est le symbole de la colère des manifestants. Contre qui cette violence est-elle dirigée, Laure ?
Eh bien, contre l'ensemble de la classe politique, c'est à l'incurie des dirigeants que les manifestants imputent l'explosion de mardi, dont le bilan des victimes est très lourd. Incurie, négligence criminelle pour avoir laissé pendant 6 ans un stock énorme de nitrate d'ammonium, une substance chimique hautement inflammable, être entreposée au port. Des potences ont été installées hier sur la place des Martyrs et une exécution publique symbolique de figures en carton à l'effigie de certains leaders politiques comme le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a eu lieu. Des manifestants étaient venus aussi avec des drapeaux libanais dont les bandes rouges avaient été remplacées par du noir en signe de deuil. Parmi les slogans, la demande de la chute du régime et des prises à partie, le nom du président Michel Aoun a été hué à plusieurs reprises. On pouvait entendre la même demande que lors du mouvement de contestation l'automne dernier, celle d'un changement du système politique.
Laure, c'est la violence qui l'a vite emporté dès la première heure de la manifestation.
En effet, des jeunes prêts à en découdre, parfois munis de pierres, ont cherché à entrer au Parlement. Ils ont été repoussés par les forces de sécurité qui ont tiré des gaz lacrymogènes. Des gaz lacrymogènes qui, comme la confusion ambiante, marquée par plusieurs rafales de tirs non identifiées et des incendies, ont poussé de nombreux manifestants à quitter la place. À la tombée de la nuit, l'ambiance était incandescente. L'armée a violemment dispersé les manifestants. Les forces de sécurité ont aussi délogé les protestataires des ministères qu'ils avaient brièvement occupés. Une opération coup de poing qui marque une première.
Laure Stéphan, en direct de Beyrouth, merci à vous. J'ajoute que le Premier ministre libanais Hassan Diab annonce la tenue de possibles législatives anticipées, tandis que la communauté internationale est au chevet du pays cet après-midi à 14h, initiative de la France avec les Nations Unies. Cette conférence en ligne des donateurs doit permettre de débloquer des fonds pour prêter assistance aux rescapés. Un pont aérien et maritime a déjà été mis en place par la France, dit le Quai d'Orsay, après un avion chargé de vivres et de matériel médical hier. Un deuxième doit décoller aujourd'hui. En Biélorussie, les bureaux de vote ont ouvert il y a une heure. 7 millions d'électeurs appelés aux urnes pour départager les 5 candidats en lice pour la présidentielle. Contre toute attente, le scrutin ne sera pas la simple formalité à laquelle tout le monde s'attendait. Le président sortant, Alexandre Loukachenko, a réussi à garder le pouvoir pendant 26 ans et souhaite bien le garder une 6e fois. Mais c'est sans compter Svetlana Tikhanovskaya. Cette mère au foyer de 37 ans a réussi la prouesse de rassembler l'opposition derrière elle, ce qui suscite un immense espoir parmi ses partisans. Reportage à Minsk de l'envoyé spécial de RFI, Daniel Valo.
Un concert de klaxons pour soutenir l'opposition et pour défier le président biélorusse. Au volant de sa vieille voiture grise, Denis participe une fois encore à cette nouvelle forme de contestation en Biélorussie, avec autour du poignet le bracelet blanc des partisans de l'opposition. Le blanc, c'est un symbole de protestation. On lève le poing, on se reconnaît entre nous et c'est pour ça que les gens klaxonnent. Parce que nous voulons que cet homme s'en aille. Un discours aussi ouvertement hostile envers Alexandre Loukachenko aurait été impensable il y a encore quelques semaines. Mais la campagne menée par Svetlana Tikhanovskaya a changé la donne. C'est le sentiment d'Ilia et d'Anton qui soutiennent eux aussi l'opposition.
Les gens sentent qu'ils peuvent choisir leur avenir comme dans un pays européen. Et cette année, il y en a qui iront voter pour la première fois depuis 20 ans. Les gens veulent du changement et ils ont vu émerger de nouveaux dirigeants.
Les gens ne voient pas de futur avec Loukachenko. Ils sont fatigués de lui. 26 ans au pouvoir, c'est dingue. Ils en ont tellement marre qu'ils pourraient élire n'importe qui d'autre.
L'opposition a relevé la tête en Biélorussie, mais elle ne se fait guère d'illusions sur l'issue du scrutin. Faute d'observateurs indépendants, les adversaires du président biélorusse s'attendent à des fraudes massives lors du dépouillement.
Daniel Valo sur place en Biélorussie pour France Culture. L'accord commercial entre Washington et Pékin loin de son objectif. Près de 7 mois après sa signature, les achats côté chinois de produits agricoles américains restent très en deçà de ce qui avait été prévu. Ils n'atteignent que 40% de leur cible avec la pandémie de coronavirus et le refroidissement intense des relations entre les deux pays. Dernier épisode en date, les protestations chinoises à l'encontre des sanctions américaines envers des dirigeants hongkongais. Les États-Unis, qui ont dévoilé leur plan d'aide pour sortir de la crise liée au Covid-19, par décret, Donald Trump a décidé d'un gel des charges sociales, de la prolongation du versement de l'allocation chômage, $400 par semaine, et des protections pour les locataires menacés d'expulsion. Dernière mesure, qui elle non plus n'a rien de libéral, le report du remboursement des emprunts étudiants, une signature d'un décret à manière de contourner le Congrès, une série de demi-mesures, dénonce Joe Biden, candidat à la présidentielle dans 3 mois. En Pologne, des manifestations en signe de solidarité avec la communauté LGBTI et contre les violences policières ce samedi. Une militante a été arrêtée à Varsovie cette semaine pour avoir vandalisé le véhicule d'une association connue pour ses actions homophobes. En France, une situation difficile pour les personnes âgées, les plus vulnérables avec la canicule. Alors quelles sont les précautions à prendre? Écoutez le docteur Jean-Paul Ortiz.
Les ventilateurs, ils ne peuvent être utilisés que dans un usage qui est un usage personnel ou immédiatement familial. C'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser un ventilateur dans un lieu clos, par exemple une maison de retraite, où plusieurs résidents seraient dans une même pièce, puisque ça favoriserait la diffusion du virus. Quant aux personnes âgées qui sont chez elles, là aussi, le coronavirus pose un problème, puisque on dit qu'il faut éviter les visites, de façon à éviter de porter du virus chez elles, et dans le même temps, en ce moment, il faut veiller à les hydrater, donc il faut aller les voir pour ne pas les laisser en isolement social. Donc vous voyez que c'est quand même difficile, tant dans les maisons de retraite que dans les domiciles des personnes âgées.
Jean-Paul Ortiz, le président de la Confédération des syndicats médicaux de France, avec Margot Siffer. Plus de 30 degrés partout en France, très forte chaleur et canicule, 15 départements en vigilance rouge, placés en rouge par Météo France, 49 en orange.